Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio-Canada.
France Inter.
RFI. Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Guérard.
Et bonjour à tous, bienvenue dans cette librairie francophone estivale ouverte à toutes les cultures au cœur de l'été. Voici le sommaire. Livres de poche à lire sur la plage, reportage au cœur d'une ville, grand entretien, rencontre, musique. Nous allons vous accompagner et vous faire voyager avec ces sons du monde. Véronique Ovaldé a carte blanche cette semaine, auteure de romans et de livres pour la jeunesse, éditrice, passionnée de poésie, de polar et ouverte aux cultures internationales. Véronique Ovaldé est une femme un peu étrange, pleine d'humour et contrastée. Attirée par un certain côté obscur, elle est la rédactrice en chef de notre séquence, le Club Francophone. Bonjour Véronique.
Bonjour Emmanuel.
Tout va bien pour vous ?
Tout va très bien.
La description vous convient ?
Mais c'est amusant, c'est toujours amusant de s'entendre décrire en fait.
Vous êtes un peu étrange.
Ou sans doute. Mais,
oui.
Mais ça je pensais le cacher très très bien en fait.
Vous avez invité un écrivain qui lui aussi est attiré par les forces inquiétantes de la nature humaine.
Philippe Jaenada.
Exactement. Bonjour Philippe.
Bonjour Emmanuel. Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien, en pleine forme.
Vous connaissez bien la librairie francophone, vous aussi. Merci de revenir avec Véronique Ovaldé.
Avec grand plaisir.
Bon, vous êtes en forme en cet été, oui ?
Non, on ne peut pas dire que je suis en forme, je suis non. Tout mou.
Oui, c'est ça, vous êtes tout mou avec la chaleur. Bon, Véronique Ovaldé et Philippe Jaenada sont dans la librairie francophone estivale. Le grand entretien, ce sera avec Juliette Gréco qui vous emmènera à Saint-Tropez. Nous irons en Suisse pour un reportage inattendu. Le groupe Lojo jouera un titre en acoustique et nous serons avec l'humoriste Boukhar Diouf pour notre séquence humour dans une rue de Montréal.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Guérard.
Et on commence avec un livre de poche pour votre été. Le poète belge William Cliff a obtenu en 2015 le prix Goncourt de la poésie pour l'ensemble de son œuvre. Nous sommes allés chez lui à Jambloux, en pleine campagne belge. Une partie de son œuvre est d'ailleurs disponible en poche chez Poésie Gallimard. Voilà, nous sommes à Jambloux, au sud de Bruxelles, à une heure de route environ. On marche sur des pavés de l'époque, avant la guerre de 14. Bonjour William Cliff.
Bonjour. Excuse-moi de vous recevoir sur une route aussi chaotique.
Ah oui, c'est vrai qu'elle est chaotique, là. C'est vraiment la route de l'époque. Et il y a deux champs à côté de nous, à droite et à gauche. Champs de pommes de terre, c'est ça ?
À droite, ce sont des pommes de terre, probablement, oui. Et à gauche, ce sont des espèces de carottes qu'on peut les maraîcher pour produire des endives.
Alors là, on a un chemin équestre ou une piste cyclable, c'est au choix.
C'est une ancienne voie de chemin de fer, oui, ouais. Qui a été transformée en piste, comme vous dites. Mais pour ce faire, on a abattu beaucoup d'arbres et de végétation et je replante, voyez-vous. Par exemple, ici, c'est un chêne que j'ai planté.
Ah, c'est vous qui avez planté, oui. Oui, tout jeune, oui.
Et alors, là plus loin, vous avez un érable. Je vais vous montrer ici aussi d'autres plantations que j'ai faites.
On plante des érables en Belgique aussi, alors.
Certains considèrent que l'érable est une mauvaise herbe tellement ça pousse facilement.
Vous direz ça aux Canadiens, ça va leur faire plaisir.
Alors,
oui, c'est un peu votre jardin en fait, la campagne de Jambloux.
C'est la prolongation de mon jardin.
Oui, c'est ça, parce qu'on est quand même à 1 km de votre maison là.
À peu près. On appelle cette région-ci, donc la SB, le bon pays. Parce qu'il y a de la bonne terre, vous voyez, une terre très riche, très fertile.
Ça a l'air, en tout cas. Restez ici, William Cliff, on va parler de vos poèmes, quand même. Oh, oui. Vos premiers poèmes, vous les publiez grâce à Raymond Queneau, qui vous introduit chez Gallimard, et on dit que lorsqu'il est arrivé avec votre manuscrit chez Gallimard, ils ont tous eu le sentiment qu'un nouveau poète était né. Vous êtes au courant de cette histoire ?
Oui, je suis au courant, parce qu'elle est écrite noir sur blanc. Donc c'est Claude Roy qui a fait la préface de mon premier recueil, qui était publié donc chez Gallimard, il a dit cela, parce qu'il était très rare que Raymond Queneau propose un poète. Il y a un oiseau qui chante, là.
Oui. Attends, ouais, ouais.
C'est bizarre. Il est jaloux, sans doute, de notre conversation.
Un vélo qui passe.
Mon orientation, si vous voulez, mes désirs, étaient en opposition avec la morale existante.
Vous écrivez, par exemple, « Ah, le corps de l'homme est parfois si bien bâti. Oui, rien qu'à le croiser, on l'aime comme un frère, tant qu'on remercie Dieu qu'il nous est imparti de naître et de souffrir sur la planète Terre. »
Ben oui, parce que Mais c'est beau ça, non?
Ah, c'est très beau, oui. Oui, oui. Mais c'est vrai que vous racontez comme ça votre amour pour le corps masculin et en même temps, à plusieurs reprises, vous racontez des épisodes dans des salles de cinéma porno gay, des épisodes assez glauques, William Cliff. Il semble qu'il y ait chez vous une forme de plaisir et de répulsion mélangée.
Et on insiste beaucoup, le mot glauque, vous avez prononcé le mot, oui. Mot glauque, je ne pense pas qu'il se trouve jamais dans un de mes poèmes de ce dernier recueil. C'est...
Il n'y a pas le mot, mais ça peut être le jugement qu'on porte.
Oui, que vous portez,
oui.
Pas moi.
Bon, les salles de cinéma gays, comme vous les décrivez, en tout cas, elles sont glauques.
C'était des salles de cinéma, si vous voulez, pornographiques. Mm-hmm. Et alors, il y avait des homosexuels qui s'introduisaient dans ces salles. Mais donc, au départ, c'est vrai, c'était glauque. L'atmosphère était effectivement glauque. Mais alors,
vous voyez.
Mais alors,
là,
mais
c'est
alors,
vous qui le dites.
Mais alors, dans ce livre, il y a plusieurs poèmes où rien que l'évocation de ces garçons qui m'ont donné du bonheur, qui m'ont aidé à être heureux, ça me rend heureux. Vous voyez. Donc, il n'y a plus de glauque, alors.
Alors là, non, effectivement. Vous êtes fasciné, c'est vrai, par le mystère de la rencontre. Un jeune homme croisé comme ça dans la rue, qui vous demande du feu, vous le racontez aussi. Même la rencontre avec un chat qui miaule dans la nuit pour vous interpeller, mais qui vous fuit en même temps, ça génère chez vous un poème, ça.
Mais oui, 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 parce que, malgré tout, la vie est mystérieuse, vous voyez. La vie. Pourquoi ce chat, par exemple? Pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté, là? Je rentrais d'un bar, en titubant, dis-je.
Oui, oui.
Bon, mais il y a quelque chose de mystérieux. Pourquoi est-ce qu'il s'arrête? Pourquoi est-ce qu'il m'appelle? Bon, qu'est-ce qu'il veut exactement? Impossible à savoir.
L'amour se conçoit sans tabou physique pour vous, William Cliff. Les jambes, les bras, les fesses, les pieds, les aisselles, tout se goûte. Vous vous enivrez de tout. Ça vous fait rire avec du recul, ça. Hein. Continuons la promenade, tiens.
Ben ça, voyez-vous, c'est un charme.
Oui, non, oui.
Et tout jeune.
Ne détournez pas la conversation.
On dit qu'il faut apprendre à vivre. Donc c'est un apprentissage. Hein.
Faut-il être infidèle à l'autre pour s'accomplir pleinement, selon vous?
Mais d'abord, être infidèle, ça veut dire qu'on a fait un pacte de fidélité avec quelqu'un. Ça ne m'est jamais arrivé. Je ne suis jamais marié, vous voyez.
Oui.
J'ai failli me marier. J'ai une fiancée pendant 2-3 ans. Mais bon, nous ne convenions pas. Donc je n'ai jamais été dans la situation de devoir être fidèle.
Et vous pouvez retrouver la poésie de William Cliff en poche chez Gallimard. Avant de partir en Suisse pour une balade au bord du lac Léman avec des artistes peintres et à l'aéroport de Genève avec l'écrivain Alexandre Friedrich, voici une découverte musicale et un extrait de Comme toi, interprété par Clara Luciani dans la librairie francophone estivale.
Thank you.
Clara Luciani avec Comme toi sur votre radio francophone.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Kérad.
On vous emmène en Suisse pour la suite de ce voyage culturel. Nous avons rencontré au bord du lac Léman un collectif d'artistes qui dessinent le paysage helvète. Et puis nous irons à l'aéroport parler des compagnies aériennes à bas prix, les compagnies low cost dans la version anglophone. L'écrivain voyageur Alexandre Friedrich a enquêté sur le sujet.
C'est une île, c'est un lieu privilégié à Genève, où les gens retrouvent le sourire, où les gens retrouvent de la poésie, de la créativité et de l'amitié.
Allez-y. Moi, je viens de France, moi, alors, pour peindre et profiter du bain des Paquis, parce que c'est vraiment une ambiance extraordinaire avec le petit restaurant, les bénévoles qui s'occupent de ça, et puis il y a les sportifs, les chanteurs, tout à l'heure il y avait la poésie, voilà.
Vous venez de France, alors, pour dessiner ici ?
Oui, moi je viens, oui, parce que je fais partie d'un atelier de dessin aussi, moitié la France, moitié ici. Alors, on nous prévient par Internet, et puis ceux qui veulent venir viennent, c'est tous des bénévoles, on se retrouve tous les derniers samedis du mois.
On organise une sortie dessin, une fois par mois, gratuit, ouvert à tout le monde, c'est juste de se retrouver, dessiner un moment ensemble, de parler aussi, de se montrer les dessins,
parler
technique aussi.
Et tout le monde peut venir, quelles que soient les origines, quelle que soit la ville où on habite, frontalière ou pas.
Exactement. Il n'y a pas de contrôle d'identité à l'entrée, ni à la sortie.
Je vous ai vu dessiner tout à l'heure, monsieur, d'ailleurs. Vous étiez installé comme ça au soleil, face à la mer, quasiment au lac, avec le jet d'eau, qui est juste en face. Ah oui, c'est votre mer à vous. Le jet d'eau qui est juste en face, on peut presque le toucher. Vous dessiniez quoi ? Qu'est-ce que ça vous inspire, cet endroit-là ?
Moi, je dessine surtout un peu comme un musicien ou un sportif pour garder le rythme et la main. Parce que c'est un peu mon métier, je suis graphiste. Alors, je fais de l'entraînement quotidien presque. Donc finalement, le sujet a peu d'importance, c'est l'entraînement qui compte, quoi.
La photo.
Avec le micro,
avec le micro, la photo, regardez.
On voit bien le logo.
Et ça, c'est quand même un lieu magique ici, les bains. C'est quand même un des rares endroits où on peut croiser des gens en costard-cravate, à côté d'autres personnes en string, complètement bronzées, oui, des familles avec des petits-enfants, vraiment de tout. C'est un endroit
des nudistes triste. Aussi.
Oui, c'est vrai.
Il y a un grand plongeoir, là, qui donne face à la ville, juste à côté du jet d'eau, évidemment. Et il y a une grande inscription en haut du plongeoir avec marqué « Poésie ». Ah ben voilà, justement, vous dessinez poésie. Bonjour, madame.
Bonjour.
Je peux m'asseoir à côté de vous ?
C'est à quel sujet ?
C'est pour la radio. Qu'est-ce que vous dessinez, là ?
Je dessine le plongeoir. En fait, je dessine tous les escaliers des bains des Paquis, voilà. Parce que c'est mon thème, en fait, parce que c'est tellement... C'est quand on est dans l'art, il y a tellement de possibles qu'il faut trouver une entrée. Et mon entrée, aujourd'hui, c'est les escaliers.
Les
escaliers, c'est très symbolique. Donc,
pourquoi c'est symbolique, ici ?
Parce que pas forcément ici, mais ouais. Les escaliers en tant que thématique... profonde, je veux dire, les escaliers, ça peut être l'escalier imaginaire, ça peut être l'escalier, l'évolution d'une vie, ça peut être voilà, l'envoler vers le plus haut, le meilleur, le plus, le moins, enfin il y a quelque chose de l'ascension quand même, voilà.
Voilà, on décolle de la réalité ici au
Paquis. On décolle de la réalité, exactement.
Merci madame, merci beaucoup.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Kérad.
Nous voici dans cette ambiance à la fois électrique et feutrée de l'aéroport de Genève. Bonjour Alexandre Friedrich.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accueillir ici. Vous avez publié EasyJet chez Alia. Et vous avez beaucoup voyagé dans votre vie, 20 ans à parcourir le monde. Et vous dites d'ailleurs que les compagnies aériennes qui cassent les prix ont changé les aéroports.
Alors, elles ont changé les aéroports. En changeant les aéroports, elles ont modifié les comportements. Et puis, évidemment, le comportement dit... que la personne doit s'adapter. Donc, en quelque sorte, on passe du voyage au transport. Et le voyageur aujourd'hui est traité de façon, disons, assez cavalière.
Alors il y a une façon très particulière de traiter les passagers, on le voit très bien ici sur l'aéroport de Genève, parce qu'on a comme cela des bandes de séparation. Alors on va s'approcher justement, parce que chez EasyJet, comme chez toutes les compagnies, hein, c'est valable aussi chez Air France, Iberia et toutes les compagnies qui sont autour de nous, on a comme ça un long chemin, comme un serpent dans lequel on se glisse entre deux barrières, et il y a énormément d'attentes. On a tout le temps du monde, et c'est plus du tout la même façon de voyager, c'est plus du tout dans l'apaisement.
Alors il y a cette formidable invention parmi d'autres inventions formidables qui s'appelle le couloir souple.
Ah, le couloir souple,
voilà, alors là on est devant, le couloir souple d'EasyJet bien entendu est orange, comme tout ce qui concerne EasyJet. Et alors, une des inventions qui définit des comportements absurdes, c'est que souvent, pour aller à droite, il faut commencer par aller à gauche, puis retourner à droite, puis retourner, etc. Ça prend beaucoup de temps. Alors là, on est devant environ, allez, comme ça, à l'œil, on dirait 200 personnes.
Et encore, c'est calme.
Voilà, aujourd'hui, c'est un jour calme, en effet. Donc, elles sont toutes en attente. Et on voit d'ailleurs personne au guichet, parce que à peu près tout est automatisé aujourd'hui.
Alors, on va monter dans quel étage, entre Tunis Air, Air Algérie et la Swissair, qui est juste là, évidemment, bien représentée, avec cet escalator. Alors voilà, on est à côté des portiques de sécurité, les fameux portiques avec des agents de sécurité qui sont juste devant nous, qui nous regardent un petit peu étrangement. Je pense que voilà, on a des autorisations, hein, quand même, hein, que les choses soient claires. Vous évoquez cette sécurité imposante, outrancière dans les aéroports, Alexandre Friedrich. Mais parfois, pour aller plus vite, eh bien, vous avez constaté que les contrôles sont un peu plus laxistes. Ça vous est arrivé à Athènes et c'est franchement très inquiétant.
Et alors, c'est toujours le paradoxe, c'est la partie humaine de la machine. On est encore dans un schéma ambivalent, on peut le constater tous les jours. C'est vrai que les machines sont de plus en plus nombreuses, mais il y a souvent des gens qui expliquent aux autres gens comment faire fonctionner la machine. Et à partir de là, l'erreur est réintroduite dans la machine, l'erreur étant humaine.
Voilà, alors là, on met évidemment sur ces fameux bacs les différents appareils que l'on a, la ceinture, les chaussures, on se déshabille quasiment parfois, hein, c'est un peu ça. On est dans une situation de fragilité.
Oui, alors un des éléments qui m'apparaissait au cours de ces 17 voyages, c'est la façon nouvelle dont on envisage l'humiliation lorsqu'on est introduit dans cette grosse machine qu'est l'aéroport. Parce que, souvenez-vous, on ne nous demandait pas grand-chose, puis on nous demandait quelque chose, et puis on nous demande de plus en plus de choses. Et pourtant, je vois rarement les gens refuser de se soumettre. Alors, je ne sais pas exactement quelle est leur raison de s'adapter aussi vite à ces requêtes, mais j'imagine qu'au fond, être humilié, comme on voit ces gens l'être, est rassurant. C'est-à-dire, ça prouve que le système fait tout pour vous protéger.
Bon, on va sortir de là parce que, évidemment, on gêne un petit peu. Bon, allez, on va aller sur le tarmac, on va aller voir ces avions. Avions orange, avions blancs, enfin, toutes sortes d'avions ici, à l'aéroport de Genève.
Au fond, on est dans une société de façade, ce qui implique des coulisses.
Ouais.
Il est difficile d'entrer dans les coulisses. Là, c'était pas mon propos, mais je pense que il y a vraiment une protection de tout ce qui relève de la fabrication de l'offre. C'est-à-dire que nous, on voit les avions, nous, on voit la façon dont on nous traite, etc. Ce qu'il se passe derrière doit être invisible. Ça, c'est l'aspect marketing.
Voilà, le tarmac de l'aéroport juste là devant nous, alors qu'un avion de United décolle, avion pour les États-Unis, devant un EasyJet d'ailleurs, Alexandre. Alors c'est vrai qu'avec ce nouveau système, au final, le fait de réserver en avance le plus tôt possible, on s'impose de nouvelles règles dans la vie. C'est une privation de liberté pour vous, ça ?
Bon, en tout cas, on travaille pour les compagnies qui nous embarquent à bord de leur appareil, ce qui reste tout de même étrange. Vous savez qu'on fait tout, avant et puis on fait presque tout pendant. On est de plus en plus loin du voyage et on parlait tout à l'heure d'effet glaçant. Eh bien, moi, je le ressens passablement, je continue de beaucoup voyager, mais il me semble que où qu'on aille, on est un peu au même endroit. Donc, où qu'on aille, on est nulle part.
Eh oui, exactement. Alors que les avions décollent devant nous, la KLM et EasyJet, pas très loin, évidemment. Le titre de votre livre, justement, c'est cet avion qui est devant nous. Merci beaucoup, Alexandre Friedrich.
Merci.
Merci infiniment. Un récit percutant, souvent drôle, autour de ces nouvelles compagnies aériennes et des aéroports. Et c'est publié chez Alia. À suivre, l'entretien de la semaine avec la grande Juliette Gréco qui vous emmènera à Saint-Tropez. Avant cela, on part au Mali avec le nouveau titre d'Amadou et Mariam. Merci à vous d'écouter la librairie francophone estivale à travers le monde. Amadou et Mariam avec Bofou Safou sur votre radio francophone.
Emmanuel Guérad.
Juliette Gréco a côtoyé les plus grandes personnalités du monde de la culture de son époque. C'est l'entretien de la semaine. Voici une conversation drôle et touchante qui commence justement par un souvenir sur la Côte d'Azur.
J'étais toute jeune, c'était il y a longtemps, et je me promenais un matin à Golfe-Juan.
Oui.
J'étais là parce que j'allais commencer à chanter. C'était vraiment tout début. Et je me promenais avec mon chandail noir, avec mon pantalon noir, mes cheveux noirs et mes gros yeux noirs. Et je me promenais sur un petit muret. Et il était tôt le matin, il était assez tôt. Et puis tout d'un coup, au ras du muret, je vois deux yeux. Mais deux yeux énormes. Je me dis, j'ai vu ça quelque part. Et j'entends, c'est toi, Gréco, avec un accent très très fort. J'étais, oui, monsieur, et c'était Picasso. Voilà, c'est un très beau souvenir.
Vous avez gardé des contacts après ou pas?
Je l'ai revu, il m'a amené voir une course de taureau, ça m'a pas plu du tout.
J'imagine.
La librairie francophone estivale.
Juliette Gréco est dans la librairie francophone pour un livre de photographie signé Georges Dudognon. Juliette Gréco, vous racontez certains souvenirs à Saint-Germain-des-Prés et à Saint-Tropez. Saint-Germain-des-Prés, un quartier de Paris qui, à la fin de la guerre, rassemble comme ça le monde des arts, le monde des lettres. Et vous dites, on n'a jamais vraiment su pourquoi.
De même que Montparnasse. tout à coup, comme ça. Ça tombe du ciel comme une météorite. C'est très, très, très bizarre. Cet endroit si calme, si bourgeois, si grand bourgeois même. Et...
C'est déridé un petit peu.
Ah ben, on grâce à vous. On a foutu un désordre absolument céleste.
Alors, c'est dans ce quartier que vous rencontrez Boris Vian à la terrasse d'un café. Vous dites qu'il vous a rendu l'usage des mots.
Il m'a rendu l'usage de la parole, oui.
Pourquoi ? Parce que vous ne parliez plus ?
Non,
vous étiez mutique.
Non, quand j'étais petite, j'étais un peu mutique. J'étais un enfant effrayant. Et je voulais pas parler. Je trouvais ça inutile. Ma sœur parlait beaucoup et ça me suffisait largement. Pendant ce temps-là, pour moi, je pensais à autre chose. Il y a eu la guerre, et il y a eu les interrogatoires de la Gestapo et l'emprisonnement pour moi. Et ça a été un très grand choc parce que je sortais d'endroits religieux dans lesquels on n'avait pas appris que ça existait, cette violence-là. Et c'était une humanité, voilà. Donc j'étais un peu surprise et j'en ai perdu l'usage de la parole.
Voilà, vous êtes refermé en fait.
Hein, complètement, totalement.
Alors c'est Boris Vian qui vous fera découvrir une ambiance musicale dans certains clubs de jazz. Juliette Gréco, dans cette ambiance, écoutez donc. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette musique?
C'est adorable, c'est tellement joyeux, c'est tellement enfantin, c'est tellement... Voilà, ça s'appelle la jeunesse, ça s'appelle l'inconscience, oui. Ça s'appelle le plaisir.
Vous avez encore ce sentiment de plaisir, impression
oui,
de...
Mais bien sûr. C'est comme le goût de certains fruits ou de certaines tartines de l'enfance. Mm-hmm. Ça passe jamais, ça.
On ne peut pas parler de jazz avec vous, Juliette Gréco, sans évoquer Miles Davis, que vous rencontrez dans les cafés. Elle joue du violon comme ça. Je dis ce que vous faites parce que... Et vous rencontrez alors Miles Davis dans les coulisses de la salle Pleyel.
Oui.
C'est un vrai coup de foudre.
Ah bah oui, ça existe. De lui et de moi, ça s'appelle un regard échangé, et absolument magique. Ça ne s'est jamais arrêté. On s'est séparés, bien sûr, mais... Ouais. Mais Sartre avait dit à Miles, Miles, pourquoi vous n'épousez pas Gréco? Et il lui a répondu, parce que je l'aime.
Ouais.
Et je ne veux pas la rendre malheureuse. Il avait raison, parce que ça, à cette époque-là, c'était encore bien pire. Un noir, une blanche, était un objet de scandale absolu.
Vous vivez le racisme avec lui, hein, vous le racontez d'ailleurs,
oui.
Vous l'évoquez dans le livre aussi. Il était lui-même raciste, hein, vous osez le dire. Il rêvait d'une Rolls blanche avec un chauffeur blanc. C'est une sorte de vengeance, en fait. Et vous crachez dans la main d'un serveur, je crois, aux États-Unis, parce qu'il refuse
à Paris.
À Paris. Parce qu'il refuse de vous donner une table parce que vous êtes avec un noir.
Oui.
Le noir, c'est Miles Davis.
Je pense qu'il a dû le regretter. Mmh. Enfin, moi, je n'ai pas regretté mon crachat, mais j'en suis assez contente.
Vous êtes fière de ça aujourd'hui.
J'en suis très contente.
Vous avez raison. Alors vous existez quand même au point d'aller à Saint-Tropez, Juliette Gréco, c'est un petit port de pêche à l'époque qui est inconnu.
Colette, totalement, chez Boris, c'est Boris qui
m'a invité. C'est Boris Vian, voilà, qui vous dit, tiens, il faut aller voir ça. Colette, il y a une maison, on sait que Gérard Philippe a eu des vignes, mais pas plus que ça. Et vous dites d'ailleurs que vous avez reconstitué Saint-Germain sous le soleil.
Complètement. On a à peine changé nos horaires.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on dormait que par hasard et plutôt le matin.
Et Bardot alors, dans tout ça ?
Pas Bardot, Bardot elle était ce qu'elle était, c'est-à-dire d'une beauté absolument renversante, éblouissante. Voilà, elle était vraiment la plus belle femme du monde, ça c'est sûrement vrai quelque part.
Enfin, est-ce qu'elle a perverti le lieu ?
Pas du tout.
Avec votre concours ? Parce que vous avez amené tout Paris à Saint-Tropez et du coup ça a changé.
Mais non, on a été des enfants dissipés.
Quand même, oui.
Ah oui, très, très, très dissipé, très joueur. Puis on faisait plein de bêtises. Mais enfin, c'était pas très grave ce qu'on faisait. On empêchait les gens de dormir comme d'habitude, mais ça on le faisait aussi à Saint-Germain. Mais on était très dissipé. On avait lâché les enfants dans la rue, quoi.
Ouais. Oui, mais vous avez changé Saint-Tropez. Du coup, c'est devenu un lieu à la mode.
Mais c'est pas vraiment nous qui l'avons changé, ce sont les imbéciles qui sont venus.
Mais qui sont les imbéciles qui sont venus, Juliette ?
Je sais pas, c'est devenu un parc d'attractions.
Oui, c'est ça.
Les gens venaient nous regarder.
Fallait s'y attendre.
Non.
Ah non.
Non. Ah non, non, les enfants, ça réfléchit pas à des choses pareilles.
Il y a une autre rencontre, Juliette Gréco, une belle histoire d'amitié qui s'épanouit d'ailleurs à Saint-Tropez. C'est la rencontre avec Françoise Sagan.
Sans vous aimer, je suis seule et déçue. Vous m'aimiez et l'été me brûlait.
Françoise Sagan, qui vous a écrit des chansons, dont celle-ci, Sans vous aimer, vous expliquez d'ailleurs avoir eu le même désir de liberté qu'elle. Quel genre de liberté vous partagiez, toutes les deux ?
J'ai dit ça, moi ?
Oui.
Ah bon. c'est bien possible. Je suis né libre. J'étais un enfant libre. J'étais un enfant muet, mais un enfant libre. J'étais une jeune fille libre, je suis une femme libre, maintenant je suis une vieille dame libre.
Elle vient d'où cette liberté, Juliette Gréco ?
Du désir de... Je ne peux pas supporter la contrainte. Je ne peux pas. Je veux bien écouter. J'ai écouté toute ma vie. Je continue d'écouter. Tout ce que j'aime au monde, c'est entendre, c'est apprendre. J'adore ça. C'est... Bon, on est là pour ça, d'ailleurs. Mmh. Et ce qui fait que la vie est courte, c'est qu'on n'a pas le temps d'apprendre tout ce qu'on devrait apprendre et de voir tout ce qu'on devrait voir. Voilà. C'est un peu regrettable. C'est la seule chose qu'on peut regretter. Dans la mort. C'est de ne pas continuer à rigoler et à découvrir.
Cette magie de l'époque, elle tient à quoi, Juliette Gréco, alors ? À tous ces moments, à tous ces instants de vie, comme ça, cet inattendu permanent ?
J'étais gâtée pourrie, moi. J'étais gâtée pourrie. J'ai eu faim, j'ai eu peur, j'ai eu froid. J'ai eu rien, mais j'ai eu tout. Tout ce qui est le plus luxueux du monde. Et au monde, c'est-à-dire des gens qui vous répondent, qui répondent à vos questions, des gens qui vous disent des choses, des gens qui vous apprennent des choses, des gens qui ont fait une confiance absolue parce qu'on sait qu'ils répondront. C'est magnifique.
Et c'est ce que vous gardez aujourd'hui, alors ?
Oh, bah tiens.
Merci beaucoup, Juliette Gréco. Notre séquence humour depuis Montréal, sur le boulevard Saint-Laurent, avec Boucard Diouf, que l'on retrouve aujourd'hui. Bonjour Boucard.
Bonjour Emmanuel.
Pourquoi le boulevard Saint-Laurent ? Pourquoi avez-vous choisi de venir ici ?
Mais parce que le boulevard Saint-Laurent, traditionnellement, autrefois, c'était la frontière qui séparait l'est de la ville de Montréal de l'ouest. L'est francophone de l'ouest qui était plus anglophone. Et je t'ai amené sur le boulevard Saint-Laurent pour parler un peu de l'érosion de la francophonie en Amérique du Nord. C'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que la francophonie canadienne, en général, je pense que c'est un village gaulois dans une mer d'anglophones. Et on est des résistants. On résiste pour que la cohabitation côte à côte ne se transforme pas du jour au lendemain à ce que nous appelons l'anglicisation coast to coast du Canada. Et donc moi, de temps en temps, je dis aux francophones d'ici, je leur récite, tu connais le laboureur et ses enfants ? De Jean de La Fontaine.
Oui, vaguement, oui.
Un laboureur s'entend sa mort prochaine, fut venir ses enfants et leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents trésor et caché dedans. Et moi, je rajoute, tel ce sage de La Fontaine qui incitait à sa descendance de creuser la terre, de la bêcher, de la fouiller, de ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. Je pense que la langue française est une richesse à prospecter. Alors je dis aux francophones d'ici, incitons nos enfants à devenir des travailleurs de la mine avec du plomb dans la tête qui se creusent les méninges pour en extraire des pépites d'art oratoire. Mon envolée n'est point une exclamation et encore moins une interrogation. Il s'agit à titre indicatif d'une proposition qui dépend, je vous l'accorde, des attributs du sujet qui participe. Mais nul besoin d'être plus que parfait, Emmanuel, ou de manier le verbe de façon proverbiale. Tout ce que ça nous prend, nous francophones d'ici, c'est de cesser de jouer au grévistes de la langue et de la parler avec fierté. Et des fois, pour terminer, Emmanuel, je dis aux francophones du Canada, conjuguons nos efforts dans la neutralité, célébrons nos différents accents au lieu de mettre l'accent sur nos différences. Si l'autre a un accent aigu, ce n'est pas grave. Lui et ses pères viennent d'outre-mer, mais nous sommes tous frères puisque nous partageons la même grand-mère pour nous raconter des histoires. Et pour conclure, je leur dis, une langue, c'est comme une amoureuse. Il faut s'en occuper affectueusement, sinon elle file à l'anglaise et french une langue étrangère. Et parfois, je dis aussi, parler une langue, c'est un peu comme faire l'amour. Si on le fait toujours mal, on finit par le faire tout seul. Voilà, je vous ai averti, francophone du Canada.
Francophone du Canada et du monde.
Du monde entier aussi.
Et du monde entier. Le voilà. Vent se lève, du coup. Vous voilà. Faites le vent se lever avec ses propos et ses mots d'esprit.
Et voilà, c'est ça. C'est une langue qui nous unit. On l'aime bien. Alors, il faut essayer de la sauvegarder en l'aimant.
Merci, Boukhar Diouf.
Merci, Emmanuel.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Kérad.
Et c'est la magie de la radio. On quitte le boulevard Saint-Laurent de Montréal pour la musique métissée du groupe Lojo qui interprète dans les studios de la librairie francophone la Marseillaise en créole dans une version inédite acoustique. Et ensuite, nous serons avec Véronique Ovaldé et Philippe Génada qui sont en plateau avec nous. Merci à vous d'écouter la librairie francophone estivale à travers le monde.
L'Occident malfamé a ses maquis pour des chansons lointaines. J'aime la rue des corps étranges, le temps des retrouvailles. À l'heure du défilé, j'aime désobéir, prier nu avec une fille de la balle, au corps saupoudré d'or pâle.
Sacré jazz en Cayman.
Nous sommes mêlés d'archanges, pistils d'un cosmos, semences d'un cheval cambré, les yeux qui s'émerveillent. Je n'aime pas les Bengales des fêtes nationales. Je préfère cette silhouette blanche sur une toile de chagall.
Le temps qui passe sans rien dire.
Collectionner des abraxas, le baron samedi du carnaval.
National identity.
La Marseillaise en créole. L'Occident malfamé a ses maquis pour des chansons lointaines. J'aime la rue des corps étranges, le temps des retrouvailles. À l'heure du défilé, j'aime désobéir. Un négro rabotant son sabbat.
National identity.
Un mercredi banal. Le temps qui passe sans rien dire.
Sans clé, sans kema.
Les pauvres abondants d'écriture de savoir. L'asmala en dreadlocks dans une passe d'Occitanie.
National identity.
La Marseillaise en créole. Marseillaise en créole. La Marseillaise en créole.
National identity. Sans crédja, sans kemban.
Junkman.
Lojo avec la Marseillaise en créole dans une version inédite pour la librairie francophone.
Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio-Canada.
France Inter.
RFI. Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
Chaque semaine, nous donnons donc une carte blanche à un auteur ou un artiste qui est fidèle à la librairie francophone. Aujourd'hui, c'est Véronique Ovaldé qui est avec nous avec la complicité de Philippe Jaénada. Véronique, vous avez eu carte blanche pour préparer avec nous cette séquence. Vous êtes la rédactrice en chef. Avant de vous laisser diriger cette émission, ou presque, un petit rappel pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous avez publié une quinzaine de romans, Ce que je sais de Vera Candida, Des vies d'oiseaux, Paloma et le vaste monde, livre jeunesse, ou encore Soyez imprudents les enfants, c'est vous. Votre œuvre est sensible, délicate, subtile. Vous savez créer un univers pour emporter le lecteur. Et vous avez un petit côté sombre parfois, la Tim Burton. Vous êtes attiré par les failles, vous êtes attiré par les imperfections humaines, parce qu'il y en a pas mal dans...
Il n'y a que ça qui est intéressant, non ? Il me semble. Hein.
Je ne sais pas.
Moi, je ne sais pas. Je pense que c'est ce qui m'intéresse, c'est un peu comme d'ailleurs mon complice Jaénada du jour, c'est que je crois que ce qui nous intéresse, c'est quand même ce qu'il y a dans les trous, ce qui n'est pas dit, ce qui est opaque. C'est l'opacité des choses, l'opacité des gens, c'est très intéressant. Et puis, ce qui est, voilà, la marge, en fait, les monstres, globalement.
Mais c'est ça. Alors, Philippe Jaénada, c'est un peu ça, parce que vous, depuis votre roman Sulac, un braqueur français, roi de l'évasion, vous êtes intéressé aux faits divers et à la réalité violente de la nature humaine.
Comme Véronique, moi, la nature humaine, évidemment, il n'y a que ça qui m'intéresse. Les forêts, les rivières, c'est bien beau, mais enfin, l'être humain, c'est autre chose. Et le fait divers, c'est toujours un déséquilibre, plus ou moins violent, mais un déséquilibre ou une faille, comme disait Véronique. Donc c'est là-dedans qu'on peut apercevoir dans les brèches la nature des gens.
Et en même temps, Véronique Ovaldé, vous êtes sensible aux relations affectives qui se nouent entre deux personnes. Quand deux personnes se trouvent en amitié ou en amour, c'est un côté magique pour vous.
Oui, alors je me demande à quoi vous faites référence là.
Je fais référence à ce que vous avez dit un jour dans un journal.
À ce que je dis. Ah oui, d'accord. Oui. Mais aussi parce que en fait j'en parle souvent et même aujourd'hui j'ai écrit quelque chose là-dessus. Donc je me dis ça me trouble beaucoup. Emmanuel Kérad avait donc l'œil au-dessus de mon épaule. Donc je crois qu'en effet ça doit me tarabuster cette affaire-là. En fait ça m'intéresse beaucoup évidemment la façon dont les liens se nouent, la façon dont les affinités électives deviennent réelles, la façon dont on choisit l'autre ou dont on est choisi. Et ça se fait en effet dans les relations amoureuses ou amicale, la camaraderie, quelque chose que j'estime énormément.
Alors voilà, vous aimez les gens qui s'aiment, et puis Philippe Jaénada, il aime les gens hors la loi, avec l'affaire Dubuisson, hein, dans La Petite Femelle, vous racontiez l'affaire Dubuisson avec Pauline Dubuisson, accusée d'avoir tué son amant. L'affaire avait défrayé la chronique dans les années 50, au début des années 50, et vous avez pris un peu sa défense. Alors on peut réécouter l'entretien qu'on avait fait ensemble dans la librairie francophone classique sur internet, mais c'est vrai que vous étiez assez proche d'elle au final.
Oui, parce que j'aime les hors-la-loi qui s'aiment aussi. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas eu de chance, qui a été très injustement massacré par toute la société. Donc évidemment, je l'ai un peu, pas prise dans mes bras, mais j'ai un peu essayé de montrer que c'était pas un monstre, justement. Parce que contrairement à Véronique, moi je n'aime pas les monstres.
Mais toi, t'as un côté Zorro, comme tu dis, t'as pas un côté justicier, mais quand même Zorro, tu vois. Tu t'habilles toujours en noir, tu ta petite moustache à la...
J'ai une épée, un chapeau.
Et voilà, tu vois, donc c'est un côté justicier quand même chez toi.
Très bien. Bah, faisons un petit exercice mental d'improvisation. Avec vous, Véronique. Que pourrait-il se passer d'étrange, là, dans ce studio de radio, en pleine émission? Que pourriez-vous imaginer? Qu'est-ce qui vous vient en premier, là?
Là, ce qui me vient en premier, je vois des bestioles qui arrivent par la fenêtre. Parce qu'en fait, il y a une fenêtre dans ce studio.
Il y a un hublot.
Il y a un hublot. Et donc, j'imagine tout un tas de bestioles qui envahissent le studio. Voilà, c'est tout à fait ça qui est venu dans la seconde.
Spontanément. Ouais. Et qu'est-ce qu'elles font, ces bestioles?
Elles grouillent et elles vont peut-être pas nous faire que du bien.
C'est très étrange, quand même. C'est très bizarre. Non,
c'est très particulier, hein, moi je le dis.
Hein. Tu penses pas à des choses comme ça, toi?
Du tout. Pas
tu
du
penses
tout.
À quoi?
Vous pensez à quoi? Qu'est-ce qui pourrait se passer dans le studio là maintenant, Philippe?
La première chose qui m'est venue à l'esprit, bizarrement, c'est que Véronique pousse un cri. Ce qui est moins dérangeant que des bestioles. Vas-y, crie, voir.
Non, j'aime pas tellement. Je vais faire peur à tout le monde, là.
Bon, sans transition, dans votre dernier roman, vous faisiez l'éloge de l'imprudence. Il est nécessaire pour vous que les enfants soient imprudents, parce que les parents sont évidemment trop, enfin en tout cas très bienveillants. Quelle est la plus grosse imprudence que vous avez commise dans votre vie?
Oh, je suis obligée de le dire, j'espère que ma mère ne va pas écouter.
Je croyais que vous alliez dire, oh, je ne me souviens plus.
Non, j'ai fait des trucs complètement débiles.
C'est vrai?
Oui, mais non, mais c'est normal. Quand on est très jeune, quand on est très jeune, en fait, on croit en plus qu'on ne va pas mourir.
Non, commencez pas.
Donc,
à
non, mais
ailleurs.
Moi, je ne sais pas. Alors, c'est surtout des fréquentations. J'avais des fréquentations quand même pas très claires quand j'avais 14-15 ans.
Oui,
et je fréquentais quand même à peu près tout ce qu'il y avait de plus repris de justice du quartier, en fait. J'avais une fascination pour les repris de justice. Je trouvais ça génial. Et donc, du coup, je mentais en permanence pour... je faisais le mur en permanence pour aller fréquenter des gens pas du tout fréquentables.
Votre mère ne le sait pas, ça?
Non, ah mais bah elle ne le saura pas, je vais lui dire, bah, écoutez l'émission.
Mais on va lui envoyer.
C'est bien aimable.
Philippe Génada, je vous en prie. Philippe Génada, la plus grosse imprudence, c'est d'avoir écrit des lettres érotiques pour le Minitel.
Oh non, alors là,
l'ancêtre d'Internet, vous avez écrit des lettres de cul, vous dites, hein, ce sont vos mots.
Non, c'est vous qui venez de le dire.
Non, arrêtez.
Ouais, mais ça, il n'y a aucune imprudence là-dedans. Non. Au contraire, c'était alors... plutôt amusant, et puis ça me permettait de gagner un peu d'argent.
Oui.
Quand j'en avais pas, non, des imprudences, oui, j'en ai fait plein aussi quand j'étais jeune.
Sans partir dans l'enfance ou dans la jeunesse.
Là maintenant, le choix de vie qu'on a, sans être sérieux deux minutes, le choix de vie qu'on a quand même d'écrire des livres et tout ça, c'est un peu imprudent. Ouais. C'est-à-dire que moi, si mon fils me dit ça, par exemple, je vais dire fais attention quand même, quoi. C'est d'avoir un métier un peu sérieux, un peu solide. Mais oui, on a une vie forcément, sans jouer l'artiste ou quoi, mais on a forcément une vie quand on est, que ce soit acteur, écrivain. Chanteur, on a une vie un peu imprudente.
Oui.
Une vie qui n'est pas sur des rails très sûrs.
Pas très stable, ouais, c'est ça. Vous avez réfléchi donc pour cette émission à un coup de gueule, un engagement et une découverte. On commence par le coup de gueule. Véronique Ovaldé.
Alors, mon coup de gueule, j'en ai plein parce que je suis quelqu'un qui est en général très très indigné. Chaque jour, je m'indigne beaucoup et je suis furax en général. Mais là, j'ai décidé de pas du tout parler de Trump ni de toutes ces choses-là. J'ai décidé de parler d'un système franco-français et sans doute même parisiano-français qui est très gênant et très très perturbant, qui est le système d'une part de APB, ce qu'on appelle APB, c'est l'admission post-bac. Ça veut dire que quand vous avez votre bac, en fait, après, ben, vous allez peut-être avoir une université. Mais peut-être pas, parce que c'est tiré au sort. Et donc, j'adore cette idée que je trouve, mais d'une...
C'est pas toujours tiré au sort,
non, vous avez, mais sauf que l'année dernière, il y avait 78 filières
tirées
au sort, et cette année, il y en a 169.
Et donc, ça augmente quand même. Ça dépend du contexte, en fonction des demandes, etc.
Absolument, mais c'est quand même un peu inquiétant, vous ne trouvez pas que, en fait, cette idée que votre... Pas tant pis pour vous, vous n'avez pas été tiré au sort. Et il y a le pendant, en fait, au lycée, du collège au lycée, où, en fait, là, vous ne pouvez pas être affecté dans un lycée. Donc, vous avez 14 ans, et là, on vous dit, tant pis pour vous. En fait, on vous dit, en gros, il n'y a pas assez de place pour tout le monde.
Philippe Génada, votre coup de gueule international.
Un coup de gueule que je vais pousser international et mondial même. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, ça rejoint aussi le dernier livre de Véronique. C'est la prudence, c'est le principe de précaution, la prudence qui régit tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas entendre à la radio ou à la télé, nous allons parler de la recette des moules frites. À la fin, ils disent, et pour accompagner ça, une bonne bière. Il y a toujours quelqu'un derrière qui dit attention, avec modération.
C'est bien, vous l'avez fait pour moi, merci.
Voilà, je l'ai fait. Ouais. Comme si quand le plus grand danger quand on mange des moules frites, c'est de terminer ivre mort. Enfin,
c'est un peu le cas souvent, mais bon. Voilà.
Ça fait pas de mal de temps en temps.
Non, avec modération, je suis désolé, Philippe.
Bon.
Votre engagement citoyen.
Eh ben voilà, c'est sans modération, puisque c'est... moi, j'ai vraiment une vie très très coincée. Hein. Je bouge pas de chez moi, je sors 2 heures par jour, 2 fois 1 heure pour aller au bar en bas. Donc j'ai des engagements citoyens assez limités, à un niveau très local.
Ouais.
C'est au bistrot, j'écoute les gens qui ont... Je parle avec les gens, j'écoute, je suis un peu le docteur Love et docteur Déprime du coin, du bar. Et donc voilà, j'écoute, je passe mon temps à écouter les gens.
Et tu les conseilles?
Je pense pas que les conseils soient très utiles, donc je fais semblant de conseiller un peu, parce que comme quand on va chez le médecin, on veut qu'il prescrive des médicaments, mais sinon j'écoute surtout, c'est le plus... c'est ce que font les psys. Hein. Donc voilà, c'est mon petit engagement, à un niveau vraiment très...
Non mais c'est bien, ouais.
Autour
du
métro Louis Blanc, dans le 10e arrondissement, pas plus loin, mais enfin...
Très bien, si vous voulez aller voir Philippe Génada, donc
voilà.
Donnez le nom du bar, au point où on en est.
Le bistrot Lafayette, si vous avez des problèmes, des malheurs, des chagrins, je suis là.
À quelle heure?
De 17h à 18h et de 20h30 à 21h30.
Mais c'est très précis,
précis. Vous allez avoir plein de monde qui va venir, c'est énorme. Véronique Ovaldé, l'engagement.
Alors l'engagement, en fait, c'est un engagement qui n'a pas grand-chose à voir avec l'écriture. Je suis présidente d'un fonds de dotation pour la médecine de demain. Et cette idée, c'est que il y a un truc qui m'a fascinée chez ces gens-là quand j'ai rencontré Michel Tanter, c'est qu'on se rend compte qu'il existe en effet des pionniers, des gens qui révolutionnent la médecine, des physiciens qui révolutionnent la médecine. On a l'impression que ça ne se passe pas à côté de chez nous. Et donc, en fait, ce qu'ils font là, c'est un fonds de dotation, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont besoin d'argent, évidemment, pour pouvoir continuer et fabriquer des machines qui vont nous soigner demain dans des thérapies beaucoup moins violentes, beaucoup moins intrusives. Là, en fait, il y a beaucoup de systèmes qui fonctionnent avec des ultrasons. Voilà.
Très bien, merci Véronique. On va terminer avec vos découvertes culturelles du moment. Que conseillez-vous aux auditeurs qui nous écoutent à travers le monde, Philippe Génada?
Alors du moment, pas tellement du moment, mais moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que au moment où la personne qu'on aime se on aime aussi son œuvre, se confond avec son œuvre. Pour moi, c'est quelque chose de magique. Ça fait ça avec Véronique, par exemple. Avec très peu de gens, parce qu'il y a des gens qu'on aime et dont on n'aime pas le travail, et l'inverse aussi beaucoup. C'est Émilie Loiseau, qui est une personne que j'adore vraiment en tant qu'humain et en tant que chanteuse. Et par exemple, Origami, qui est son dernier single, ou je sais pas comment on dit
ça. Oui, c'est ça, dernier titre, pas dernier single. Titre, oui. On est francophone, Philippe, enfin, franchement. Origami.
Trois couchers de soleil, que nous avons pris la route, je voudrais qu'il se lève encore. Si tu fermes les yeux, je te promets mon amour, de te réveiller pour l'aurore. Berce au creux de tes bras, la mer rugée.
Et alors ça rejoint un peu les coups de gueule dont on parlait tout à l'heure, parce que cette chanson, c'est destinée aux migrants, c'est un hommage aux migrants, aux bateaux qui coulent. Émilie a fait sur le canal de Lourdes, il y a mi-juin, je pense, elle a demandé aux gens de construire des petits bateaux en papier qu'ils ont posés sur des origamis, donc qu'ils ont posés sur le canal de Lourdes, pour penser à tous ces gens qui coulent.
Très bien, merci Philippe Génada sur cette jolie musique d'Émile Loiseau, effectivement. Et puis le dernier roman de Philippe Génada.
Bah bien entendu,
qui sort à la rentrée.
J'ai eu l'immense chance de pouvoir déjà le lire.
Alors voilà, en avant-première, puisqu'il sort dans quelques jours, la semaine prochaine. Et ce livre, c'est La Serpe, qui revient sur l'histoire d'Henri Girard, l'auteur du Salaire de la peur, accusé d'avoir massacré 3 personnes à la Serpe, son père, sa tante et la bonne, dans un château du Périgord.
Ouais, ce que j'aimais bien, c'était le côté un peu anecdotique, c'est vraiment Agatha Christie au Cluedo. Hein, c'est un château fermé de l'intérieur, il y a 4 personnes,
ça va être
3 massacrés.
Voilà.
Mystère.
Merci beaucoup Véronique Ovaldé de nous avoir amené Philippe Génada, d'avoir accepté cette carte blanche. Vous êtes ici chez vous, vous le savez, et c'est le principe de ce club francophone que nous formons tous à travers cette émission diffusée dans le monde entier. La Serpe sort donc dans quelques jours chez Julliard, Philippe Génada, pour la rentrée littéraire. Et vous, Véronique Ovaldé, vous ne sortez rien.
Non, cette année, non.
Rien.
Je reste calme et
un
je regarde les autres.
Un peu, non
oui, non, j'aime bien parfois être au bord de la piscine, regarder les autres en train de faire de la brasse papillon.
Merci pour votre générosité. Merci beaucoup. On termine avec le bonus du club et 2 histoires personnelles francophones racontées par nos invités. Histoire que je découvre en même temps que vous tous. À vous l'honneur, Véronique Ovaldé.
Alors en fait, j'étais il y a quelques temps, il n'y a pas très très longtemps, quelques mois en fait, en Acadie, à Moncton. Alors je ne comprends pas pourquoi on dit Moncton, mais on dit Boston quand on est au Québec. Je ne sais pas. Bon, enfin bon, c'était à Moncton pour un festival absolument extraordinaire qui s'appelle le Festival Fry. Et là, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas qui était le chiac. Alors le chiac, en fait, c'est apparemment une langue qu'on ne parle que dans cette région-là. Alors c'est pas de l'acadien, c'est une langue qui mélange du français et de l'anglais. Ça donne des phrases du genre « S'attends-tu d'aller watcher un movie ?» ou « Espère-moi sur le corner, je traverse le chemin et je viens right back. » Et moi, ça m'amuse parce que ça me fait penser, dans les entreprises françaises, on a tout un tas de gens qui passent leur temps à parler chiac sans le savoir. Ouais. Vous savez, il faut qu'ils vous disent « il faut que tu me greenlight ». Ou on va se brainstormer. Il parle comme ça.
Voilà,
donc je me suis dit c'est très amusant
c'est
finalement.
C'est très compréhensible.
C'est très compréhensible et donc je trouve ça amusant parce qu'ils peuvent même pas imaginer qu'ils parlent chiac. Mais je crois que je vais leur dire maintenant à tous.
Philippe Génada.
Moi c'est une histoire un peu ridicule comme souvent voilà.
Ça y est, il part perdant. Cet homme part perdant, c'est pas possible.
Je bouge pas beaucoup de mon quartier parce que j'ai peur d'en sortir et puis là j'étais à Bruxelles quand même bon.
Oh là là, vous êtes allé loin.
J'étais à Bruxelles dans un petit hôtel. Tout seul, j'étais évidemment pas très à l'aise. Et le matin au petit déjeuner, la dame, c'est un petit hôtel, donc un peu familial, la dame m'indique tout ce qu'il y a, comme si vraiment j'avais jamais été dans un hôtel de ma vie, là les croissants, là vous pouvez faire du jus d'orange et tout. Je m'installe, et puis elle vient me voir au bout de 2 minutes, elle fonce sur moi et elle me dit « Vous êtes levé de bonne heure ?» Je me dis « Ça y est, la convivialité belge, elle va me demander comment j'ai dormi, etc. » Donc je dis « Non », avec un sourire, je dis « Non, non ». Elle me dit « Ah bon ?» Je dis « Ben non, non, pas spécialement, quoi ». Puis elle avait l'air vraiment, vraiment gênée. Elle dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et je vois qu'elle va regarder le buffet. Et en fait, avec son accent, je m'étais un peu trompé. Elle m'avait demandé, vous avez trouvé votre bonheur?
Oh mon Dieu.
Et donc, moi, très calmement, je dis, non, non, pas spécialement, non, désolé, comme d'habitude. Donc voilà, j'ai tombé au fond d'un gouffre et je suis parti de l'hôtel sans dire au revoir à personne.
C'est un carnage. Il faut rester chez vous, voilà. Philippe.
Oui, mais c'est ce que j'essaie de faire.
Ouais. C'est ça qu'il nous dit. C'est ça, il n'arrête pas de nous dire, en fait, qu'il faut absolument qu'il reste chez lui dans le 10e arrondissement.
Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous à la rédaction Jean-Philippe Véret et Leïla Kourousselikoua en France, avec les équipes de la RTBF, de la RTS, de Radio-Canada et de RFI, à la réalisation Christophe Imbert avec Élise Christophe à la technique et Thierry Dupin à la prog musicale. À la semaine prochaine pour la suite de ce grand voyage culturel avec Mathias Sénard à Alger, les Cowboys fringants dans un parc de Montréal, le grand auteur sénégalais Cheikh Hamidou Kane et Jean-Christophe Ruffin aura carte blanche. Il viendra avec un autre académicien que vous connaissez tous. Surprise. Bon week-end, bonne semaine.